radieux. Je suis très content ce matin de me présenter devant vous par la grâce du Seigneur et par son amour infini qui nous a donné la vie et sa protection. Il nous a fait voir ce nouveau soleil de cette jolie journée. Et ce dimanche, donc c'est un jour auquel l'Église se réunit pour bénir et célébrer le nom de Jésus. Et la Bible nous dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom.
Amen.
Amen.
Et que tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Que son nom soit béni. Que son nom soit loué à jamais dans ma vie, dans ta vie, dans tout ce que nous faisons par sa grâce. Donc ce matin, je suis encore parmi vous. Et je voudrais saluer le révérend pasteur Michel Janton et son épouse Michou pour l'opportunité qu'on me donne de pouvoir administrer la parole de Dieu. Que Dieu bénisse ce ministère et salutations à vous tous qui êtes là ce matin et également à tous ceux qui écoutent à travers les réseaux sociaux et à travers le site révélationbible.com que fr autant pour moi et que bon moi je vais toujours sur .com voilà pourquoi je dis .com. Ok, que Dieu bénisse tous ceux qui, à travers le monde ou à travers les réseaux sociaux, écoutent les prédications et entendent le message de la parole de Dieu pour se perfectionner, pour aller plus de l'avant avec Dieu. Donc ce matin, je voudrais simplement partager avec vous une pensée. J'ai demandé à Dieu, voilà, je ne veux pas prendre des thèmes ou fouiller la Bible et prendre des versets pour partager comme ça, mais quelque chose que Dieu peut réellement mettre moi dans mon cœur pour que je puisse partager avec vous. Car moi-même qui vous parle, cela me fait du bien et cela m'aide à aller de l'avant avec lui. Donc, c'est très, très capital de savoir que aujourd'hui, nous vivons dans un monde de combat. Voilà. Donc, je vais vous parler de la responsabilité. Quelle est ma responsabilité dans le monde pour la mission que Jésus m'a donnée? Voilà. Donc, quelle est ta responsabilité? Nous ne sommes pas là simplement pour nous réunir le dimanche ou dans la semaine, partager nos peines, partager nos douleurs, partager nos joies et prier les uns pour les autres. Et puis après, voilà, aller travailler et aller prendre des récréations. Non, cela ne doit pas seulement se limiter à là. Mais en dehors de tout ça, j'ai une responsabilité pour la mission auquel Christ m'a confié. J'ai été sauvé pour servir. Dieu ne m'a pas sauvé pour me sauver comme ça. Non, je ne vis pas ma vie chrétienne pour vivre une vie comme ça. Donc ceux qui vivent dans le monde, ils vivent selon le trait de ce monde. Ils vivent selon les convoitises de ce monde. Mais toi, tu as eu l'occasion de toucher la parole de Dieu, de toucher Jésus, de savoir, de goûter et de connaître le saveur de la parole de Dieu. Donc ce matin, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions voir quelles sont nos responsabilités aujourd'hui dans la mission que Dieu a donnée à l'Église. Donc, tu fais partie de l'Église. Ou peut-être, il y a des gens peut-être qui ne sont pas encore donné leur vie à Christ. Voilà, donc ils écoutent les messages passés par là, ils écoutent tel pasteur, tel prêtre, tel imam, tel je ne sais quoi. Donc, et chacun attendant à chercher la vérité. Alors que nous ne cherchons pas la vérité, nous savons la vérité. Alléluia. Nous savons la vérité. Et la vérité, c'est Christ. Et la Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Et nous sommes, et nous avons cette liberté. Donc, on n'a pas peur. On ne craint pas. Alors, après la mort, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Qu'est-ce qui va m'arriver après demain? Non. Nous mettons tout entre les mains de celui-là qui a créé les cieux et la terre. Donc, quelle est ta responsabilité? Aujourd'hui, de nos jours actuels, le monde est en guerre. Le monde est en guerre de manière physique que nous voyons et également de manière spirituelle. Mais je ne veux pas parler de la guerre physique où on met des bombes, où actuellement au Burkina Faso, il y a des terroristes qui viennent tuer des gens, égorger des gens et au Sahel, au nord, à l'est, et du Burkina Faso, et au Mali, et au Niger. Voilà, donc ces trois frontières, ces trois pays qui sont menacés à fait, où il y a des déplacés et des déplacés internes, et les gens ne savent pas quoi faire. Donc aujourd'hui, il y a un combat. Mais le combat que je veux vous parler, c'est le combat spirituel. Et voilà pourquoi la mission est importante, de savoir que la mission, nous devons faire la mission. Et voilà pourquoi je vais demander à Michou de lire Jean chapitre 4, le verset 5 à 30. Mais avant de lire ce verset 5 à 4, ça parle de la mission. Ce verset parle de la mission. Donc écoutez très bien ce que Jésus dit à travers sa parole. 4 à partir du verset 5.
Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, qui avait été donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Et Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai, Seigneur. » lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu ?» ou « Pourquoi lui parles-tu » Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui.
Amen. Donc ici, nous voyons l'histoire que Jésus a eue avec la femme samaritaine. Et ici, Jésus veut montrer à cette dame-là que pour adorer Dieu, on n'a pas besoin d'aller sur une montagne. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Mais il faut que ceux qui vont adorer Dieu doivent l'adorer en vérité. Donc, voilà pourquoi je disais, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donc, la mission de l'Église, la mission que tu as, est cette conversation que Jésus a eue avec cette femme. Et cette femme qui, après, a reçu une révélation de ce que Jésus a montré dans sa vie. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir la révélation pour savoir qu'il y a une mission que nous devons accomplir. Une mission auquel tu dois faire. Une mission auquel tu dois t'imprégner. T'imprégner à faire. Jésus dit, si vous lisez plus loin, il dit, les champs sont déjà blanchis. Et on doit faire la récolte. Donc aujourd'hui, il est impératif de savoir que le combat auquel le chrétien est exposé, c'est un combat spirituel. Et si tu n'es pas dans la vérité, tu ne peux pas adorer Dieu. Parce que dans l'adoration, au moment où tu te consacres pour adorer Dieu de façon claire, de façon juste, de façon correcte, il y a un combat qui doit sortir. Et le diable n'est pas prêt pour nous faire un cadeau. Et il doit tout faire pour empêcher l'œuvre de Dieu. Donc il y a urgence. Il y a urgence dans le travail. Il y a urgence dans l'appel de Dieu. Il y a urgence pour la mission auquel Dieu nous a conduits parce que le champ est blanc. Et nous devons aller récolter. Ce qui veut dire qu'on doit aller prêcher la parole. On doit annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile de la manière dont je vis, de la manière dont je parle, de la manière dont je réforme, de la manière dont je regarde les autres. Ça, c'est d'abord un premier cas. Le deuxième cas, c'est aller témoigner de Jésus. Dire à quelqu'un, Jésus a besoin de toi. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de moyens. À travers les réseaux sociaux, nous pouvons évangéliser. Nous pouvons aller en mission. Nous avons la possibilité de faire beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, pour dire que c'est devenu très facile aujourd'hui pour les enfants de Dieu de montrer que la mission, nous avons tous les atouts pour faire la mission. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses pour l'Église. Il n'y a plus d'excuses pour les chrétiens de ne pas mener ce combat. Maintenant, le combat réel, spirituel, que la Bible nous parle, le combat spirituel, l'apôtre Paul va écrire à l'église de Éphésiens. Et dit aux Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits. Et nous allons voir l'idée que l'apôtre Paul a vu à dire. Donc, chaque chrétien, je vous dis, chaque chrétien est exposé. Chaque chrétien doit savoir que le combat spirituel est quelque chose de clair et de vérité. Et nous ne pouvons pas échapper à ça. Donc, savez-vous que des forces maléfiques, des forces diaboliques, des forces sataniques combattent contre nous.
C'est fort là qu'il va prédiner. Que nous en soyons conscients ou pas conscients, ces forces du mal sévissent dans le monde spirituel. Quand tu veux, que tu ne veux pas. Qui que tu sois, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ces esprits méchants les maintiennent endormis. Voilà. Mais vous, moi, qui cherchons la vérité, qui cherchons à vivre la vérité, à marcher avec la vérité, à faire sortir la vérité, ces forces de combat ne peuvent pas nous laisser tranquilles. Ils sont prêts à nous combattre. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 6, nous allons le lire. Éphésiens 6, chapitre 6, verset 12, dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, premièrement. Contre les dominations. Donc, ce qui veut dire que les dominations, les puissances de l'air. Il y a Satan qui domine le monde. Satan domine le monde. Il veut contrôler le monde. Et voilà pourquoi il tourne de cause à droite. Il ne peut pas être en même temps à Paris et être en même temps à Kikilba. Ce n'est pas possible. Donc, Satan se promène. Et l'exemple nous est donné dans la Bible que Dieu convoque une réunion. Et puis, la Bible dit que Satan s'est présenté. Dieu convoque une réunion. Satan ose se présenter à cette convocation. Mais la Bible ne nous a pas dit que Dieu l'a convoqué. La Bible ne nous a pas dit que Dieu l'a invité. Non. Mais il s'est présenté à cette rencontre-là. Et Dieu va lui poser la question. D'où viens-tu? Satan dit de parcourir le monde. Oui. C'est le père du mensonge. Il parcourt le monde. Il parcourt partout. Et Dieu lui dit, mais as-tu remarqué mon serviteur Jean? Est-ce que tu l'as vu? C'est un homme intègre. Il dit, mais Dieu, d'une manière désintéressée, que tu protèges Job, permets que je pars retirer ce qu'il a. Et il va te régner. Oui, Satan se présente souvent devant Dieu et il est prêt pour attaquer Stéphane. Oui. Et si Stéphane ne fait rien, il doit venir. Job priait pour ses enfants. Job faisait en sorte que quand ses enfants faisaient des fêtes, il offrait un sacrifice en disant que peut-être mes enfants ont péché contre l'Éternel. Il était pieux. Mais aujourd'hui, Satan se présente également pour nous accuser. Même que c'est l'accusateur. Satan nous accuse. Il vient seulement pour nous accuser. Il n'a pas autre chose à faire que de nous accusés devant Dieu. Mais gloire à Dieu, la Bible dit, nous avons un avocat. Jésus de Nazareth est notre avocat. Donc, Satan vient, il fait ce qu'il a à faire. Mais nous, nous sommes puissants et forts en Jésus-Christ. Donc, il domine. Voilà, il domine le monde. Et ensuite, la Bible dit que contre les autorités, Satan a placé des autorités partout dans chaque continent. Continent européen, africain, américain, Amérique du Nord. Tous les cinq continents, Satan a ses représentants où il a mis là-bas. Vous voyez que l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, il a bien fait la spécification des choses. Et ces esprits contrôlent les continents. Afin de dire, contre les princes de ce monde. Dans chaque nation, il y a des princes. Des princes maléfiques qui contrôlent la France, qui contrôlent le Burkina Faso, qui contrôle la Chine, qui contrôle le Nigeria, qui contrôle la Syrie, qui contrôle... Voilà, donc il y a ces esprits-là qui gouvernent. Parce que Satan ne peut pas être là et là et là. Mais, et voilà pourquoi la Bible dit, contre les prêts de ce monde, de ténèbres,
il appelle bien précisé,
les princes de ce monde de ténèbres. Et ensuite, contre les esprits méchants. Maintenant, ces esprits méchants-là sont établis dans chaque ville. Dans chaque ville, il y a ces esprits méchants qui sont établis pour amener la division, pour amener la diffamation, pour amener les divorces, pour amener les maladies, pour amener les problèmes, les mésententes, les guerres tribales, pour dire l'esprit de supériorité, l'esprit de vengeance, l'esprit d'orgueil. Ces esprits méchants sont établis dans les lieux. Alléluia. On dit, ils sont établis dans les lieux célestes. Ils sont là-bas et ils descendent pour contrôler les différentes villes. Et là, on dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelle arme as-tu? Ou quelle arme tu dois prendre? Ceux qui n'ont rien compris prennent des armes pour tuer les Burkinabés, pour les égorger. Au Mali, au Niger, en Chine, même en France ici. Dans les villes, les gens respectent. Et pour montrer leur mécontentement, ils font brûler. Des policiers sont tabassés. La population est tabassée. Il y a eu une confusion totale. Et on se pose des questions. C'est la faute du président. C'est la faute du gouvernement. C'est la faute du maire. C'est la faute des députés. C'est la... Oh, Satan, c'est ça. L'idée de Satan. Parce que le monde ne connaît pas. Le monde ne connaît rien. Donc, la Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen.
Amen.
Prenez toutes les armes. Tenez donc ferme. Et avouez la vérité pour ceinture. Ça veut dire que la vérité est une arme.
Mais si je te dis, montre-moi ton arme là. Où est ton arme? La vérité. Est-ce qu'on peut prendre la vérité et puis mettre Michel? On peut prendre la vérité? Non. Parce que la Bible dit, tu connaîtras la vérité. La vérité chez Jésus. Si tu es plein de mensonge, si tu es plein de cupidité, si tu es plein de faucheté, d'abord, il n'y a pas de vérité entre toi et Dieu. Je ne parle même pas de la vérité entre toi et ton master ou toi et ton frère. Comment tu peux réussir?
Donc, prenez les armes de Dieu pour tenir ferme le mauvais jour. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Après d'avoir surmonté tout, la Bible dit, tenez donc ferme et allez avoir la vérité pour ceinture. Remettez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice.
Mais si tu prends la cuirasse et puis tu portes, et bien on va plus supporter la cuirasse en train d'aller à Carrefour. Mais on va dire qu'elle est folle. On va dire, mais c'est quelle femme ça?
Ou bien on voit Olivier porter la cuirasse en train de travailler.
Mais c'est pas possible.
En Afrique, il fait 45 degrés. Et si tu vas au nord, ou bien dans le Sahel, il fait 50 degrés. Ou 55 degrés.
Il y avait un missionnaire italien du nom de Trappi, Umberto et Trappi, et sa femme Lisa. Ils ont fait un centre à Cayenne. Et Trappi était là-bas. Et avec le soleil, 40 degrés, 45 degrés, il avait le cancer du peau. Donc, il était obligé, à partir du moment de la chaleur, il rentrait en Italie pour 6 mois. Et après, il retournait au Burkina Faso. Donc, il est décédé aujourd'hui et il a refusé qu'on l'enterre en Italie. C'est un Romain, il est du Rome. Il a dit, je ne veux pas être enterré en Europe. Je veux être enterré au Burkina Faso. Et on l'a enterré là-bas. Donc, quand il explique la chaleur, comment la chaleur tu brûles.
Donc, vous voyez, donc, tu ne peux pas porter une cuirasse étant à une chaleur de 45 ou de 50 degrés. Donc, quelle est cette cuirasse que la Bible parle? C'est la cuirasse de la justice. Ça veut dire que toi-même, tu dois être juste. Tu dois être juste avec, entre Dieu et toi d'abord. Dieu doit voir qu'en toi, il y a cette justice-là. Et après, entre toi et ton frère. Mettez pour chaussure à vos pieds le sel que donne l'évangile de paix. C'est pas n'importe quel évangile. C'est l'évangile de paix. Ce qui veut dire, nous devons avoir pleinement la parole de Dieu en nous. C'est une arme. Une arme contre le diable. Et il continue en disant, prenez par-dessus tout. Après tout ça, prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. Ah, là, c'est très bon. Là, c'est très bon. Le bouclier de la foi. Le bouclier, ça te protège. Tu as le bouclier. Et quand les flèches viennent, tu contre-gardes. Quand on tire, tu contre-gardes. Voilà pourquoi le militaire, il a le casque. Et le casque, il a le gilet par balle. Et le gilet par balle, quand on tire, ça veut dire que la balle ne peut pas traverser le gilet pour t'atteindre. Et la Bible dit, par-dessus tout cela, prenez le bouclier de la foi. Pas le bouclier, simplement. Avec lequel vous pouvez éteindre les tuiles enflammées du matin.
Ça veut dire que le mauvais jour, Satan va venir pour nous combattre. Vous savez, il y a des gens, ils ne prient jamais même pour le combat spirituel. Non. Dans sa vie chrétienne, prendre un moment, consacrer ce moment pour prier contre les esprits méchants. Comme a cité dans la parole de Dieu ici. Ils ne le font pas. Satan a béni Jésus dans le désert pour être tenté. C'est Satan qui l'a amené.
Ah, c'est le Saint-Esprit.
Amen. Pour être tenté. Et quand il est arrivé dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé?
Jésus lui dit, tu vois les pierres là, transforme ça en pain pour manger. C'est pas là-bas que je voulais même parler.
On dit qu'après, il l'a amené sur le temple. Et il a dit quoi? Laisse-toi jeter. Parce qu'il est tequin. Il est tequin. Satan connaît la parole. Mais quand vous lisez la Bible, quand vous lisez Psaume 91,
bon, c'est pas un enseignement, donc je vous le dis, vous pouvez après aller chercher pour voir. Et même ceux qui écoutent également, vous pouvez aller chercher pour voir Psaume 91 que Satan a utilisé pour tenter Jésus.
Et dans Psaume 91, à partir du verset 12, Satan dit à Jésus, il est écrit qu'il enverra ses anges et qu'ils te porteront et que ton pied ne heurtera pas une pierre. Mais le verset 13, Satan n'a pas utilisé le verset 13. Parce que le verset 13 était contre lui. Donc, il s'est limité au verset 12. Donc, Satan vient, il nous combat avec la parole. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus aussi a utilisé la même parole pour le combattre. Jésus dit, il est aussi écrit,
tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Vous voyez la vérité?
Donc, quand Satan vient pour te combattre, il vient avec la parole, tu dois utiliser la parole.
Mais si tu ne connais pas la parole, comment tu vas pouvoir le combattre? Ce sera très difficile de pouvoir le combattre. Si nous lisons dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. À partir du verset 12. 2 Timothée 4, 12. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne à ce niveau? Donc la Bible est très claire. Et j'aime beaucoup ce verset que l'apôtre Paul parle clairement de comment que nous devons surmonter, comment nous devons remporter la victoire. Donc, 2 Timothée 4, 12, l'apôtre Paul dit ceci, si quelqu'un le trouve, il peut me faire la faveur de lire. J'ai une Bible d'étude, donc. 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 12.
J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troie chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal.
Ouais.
Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il est fortement opposé à nos paroles. Dans ma dernière défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire.
Amen.
Au siècle des siècles.
Amen. Amen. Voilà un exemple que l'apôtre Paul donne de lui-même d'un combat physique. Et puis il dit à Timothée, il est toi de cet homme-là. Nous avons des gens comme ça. Des gens qui cherchent à nous nuire, des gens qui cherchent à nous blesser. Et nous ne devons pas nous arrêter sur ces gens-là. Nous devons continuer, nous devons aller de l'avant pour que Dieu soit glorifié. Nous n'avons pas le temps à perdre avec ces personnes. Mais nous devons tenir ferme. Tenir ferme pour remporter la victoire. Et la Bible nous dit dans 1 Jean 3, 8 que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Quand nous lisons 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 8, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier. Prier pour détruire les œuvres du diable. Nous ne devons pas prier pour détruire Satan. Nous ne devons pas prier pour envoyer le feu sur les démons. Mais nous devons prier pour détruire les œuvres. Si tu les lis également, tu ne peux pas lier quelqu'un et puis le dire de partir. Comment il va partir? Il ne peut pas bouger. Tu l'as nié. Il ne peut pas bouger. Mais tu lis ses œuvres et maintenant, tu le saches. Va-t'en. Et c'est ça, la prière dans le combat. Cela est très, très capital que nous puissions connaître que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et cette guerre, nous devons le remporter. Cette guerre, nous devons avoir la victoire. Cette guerre, Dieu est avec nous. Dieu est là et il est prêt pour nous donner la victoire. Et cette victoire-là, Dieu ne marchande pas. Il ne marchande pas. Il ne marchande pas sa victoire. Parce que tout simplement, il est Dieu. Et comme il est Dieu, la Bible nous dit qu'il est avec nous. Il a promis, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et si Dieu l'a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps, nous ne devons pas avoir peur. Voilà pourquoi dans Jérémie, chapitre 1, le verset 19, la Bible nous dit tout simplement, ils te feront la guerre. Ces ennemis-là te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Jamais, jamais. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel, notre Dieu. Ils te feront la guerre, mais ils ne vont jamais te vaincre. Parce que, tout simplement, Dieu, il est avec nous. Et comme Dieu est avec toi, sache que la victoire est pour toi, la victoire est pour moi. Et très simplement, Dieu ne nous laisse pas orphelins. Il est toujours là pour nous accompagner. Il est toujours là pour nous aider. Il est toujours là pour nous dire, mon fils, mon enfant, ne crains pas, je suis avec toi pour te délivrer. Je suis avec toi pour te sauver. Donc, nous devons être serein que le combat auquel que nous menons, c'est un combat juste, un combat clair, un combat de victoire. Et l'épître de Jacques nous dit tout simplement, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, s'il n'y a pas de soumission à Dieu, le diable ne peut pas fuir devant toi. Donc, il faut te soumettre à Dieu. Et soumettre à Dieu, ça veut dire quoi? Accepter d'obéir sa parole. Vivre ce que dit sa parole. Et tant que tu ne vis pas sa parole, tant que tu ne fais pas ce que la parole dit, ça veut dire que tu ne te soumets pas. Et si tu ne te soumets pas, le diable ne peut pas fuir devant toi. Donc, nous devons savoir une chose, est que, en se soumettant à Dieu, Satan devient faible. Satan devient quelqu'un qui ne peut plus rien faire. Donc, que Dieu t'aide, que Dieu m'aide à ce que nous puissions nous soumettre à lui. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, avant de terminer, que Dieu ne prend pas les gens parfaits, mais des gens perfectibles. Ceux qui sont perfectibles, c'est eux-là que Dieu cherche. Ceux qui sont parfaits, Dieu ne les veut pas. Dieu ne cherche pas. Ceux qui disent que je connais plus qu'un tel, je suis sage plus qu'un tel, j'ai la capacité plus qu'un tel, Dieu ne regarde pas. Et Dieu ne veut même pas utiliser ces genres de personnes. Mais Dieu veut utiliser simplement tous ceux-là qui sont perfectibles. Sache que tu es quelqu'un de perfectible. Tu es imparfait. Tu es incomplet. Tu ne connais pas. Tu ne sais pas. Et c'est ça que Dieu va utiliser. C'est un pécheur que Dieu a utilisé. Un pécheur de poisson. Et 3000 personnes s'y sont converties. Mais il y avait des intellectuels. Mais l'Esprit de Dieu utilise les gens faibles, les gens simples. Sois simple, sois perfectible. Et Dieu va t'utiliser. Et sache que dans ton monde, il y a un combat. Que tu es conscient que tu n'es pas conscient, le diable travaille. Et il vient te combattre. Son but, c'est comme il a répondu à Dieu. Je suis là et je tourne dans le monde. Pour faire quoi? Il tourne dans le monde pour faire quoi? Pour faire son travail. Pour faire ce qu'il a à faire. Détruire, diviser les familles. Amener la guerre. Amener le vol, la corruption. C'est ce qu'il tourne dans le monde pour faire. D'où viens-tu, Satan? D'où viens-tu? Dieu lui pose la question. D'où viens-tu? On dit que une deuxième fois encore, Dieu a convoqué une autre réunion. Et Satan s'est présenté de nouveau. Et Dieu lui a dit, mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, mais Seigneur, touche son corps et tu verras qu'il va te maudire. Il va te régner. Dieu dit, va. Vous voyez, Dieu avait confiance à Job. Dieu avait confiance en Job. Est-ce que Dieu peut avoir confiance en Nicolas? Est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi? Et il y a des moments, des choses qui nous arrivent. Regardez le pasteur, il y a une semaine de cela, il y a un pasteur qui a été égorgé au Burkina. Il n'est pas le seul. Mais ce pasteur qui a été égorgé, tout le monde dit, oh, pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Seigneur a accepté que ce pasteur soit égorgé? Ah, pourquoi? Mais je te pose la question. Pourquoi Jésus a laissé Jean et on l'a décapité? Pourtant, Jean a envoyé. Allez-y demander à Jésus, est-ce que il y a une autre personne qui doit venir? Où est-ce toi? Jésus dit, allez-y dire à Jean, les boiteux marchent, les aveugles voient, la bonne nouvelle du royaume est annoncée. Et puis, il a continué son chemin. Il n'a même pas cherché à dire quoi que ce soit. Les disciples déjà sont retournés en prison et ils ont raconté ça à Jean. Quelques jours après, la tête de Jean était sur un plateau. Alors, Jésus était là quand on a coupé la tête de Jean. Les disciples étaient lapidés. Il était lapidé.
Amen.
Vous savez combien de disciples sont morts? Pierre était crucifié, la tête en bas, les pieds en haut. Alors, ce qui arrive, nous on dit quoi? Non. Il faut savoir que si quelqu'un arrive ici et puis tue Michel. Oh là 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 là. Mais pourquoi Dieu a permis ça? Oui! Dieu l'a permis parce que c'est moi le glorifier. Alléluia. Dieu l'a permis, c'est moi le glorifier. Ah, mais je suis malade. Pourquoi Dieu permet que je sois malade? Mais il fait ce qu'il veut. On a dit qu'il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Alors, où est le problème? Qui peut compter ce contre Dieu? Qui? Personne. Donc, dans notre vie, ne cherchons pas les pourquoi. Cherchons plutôt à plaire à Dieu. Cherchons plutôt à nous soumettre comme dit Jérémie. Et Jean, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu et le diable fuira loin de vous. Nous devons faire ça. Mais les pourquoi, ça appartient à Satan. Ça appartient au démon. Le pasteur a été décapité. Ça fait, il y a d'autres personnes qui ont été décapitées, tuées, expliquées. Ils sont arrivés dans une église. Ils ont incendié l'église. Ils ont mis le feu. Et ceux qui sortaient recevaient des balles. Et Dieu, il est là et il les regarde. Les chrétiens en Rome. Michel m'a amené dans le Colisée. On a regardé. Des chrétiens qu'on venait sortir. Et les lions les mangeaient. Et ce peuple était là à applaudir. Et à se réjouir. Amen. Le peuple de Dieu qui a été massacré. On m'a raconté qu'on prenait les enfants juifs. on les jette en mer, et puis avec le pistolet, on les tuait. Dieu était là et puis il regardait. Alors, nous avons une mission, prêcher la parole de Dieu. Le reste, là, ça ne te regarde pas. Je vis bien où? Je ne vis pas bien où? Je suis manade, je ne suis pas manade, je suis content, je ne suis pas content. Ça ne te regarde pas. Ce qui te regarde là, prêche la parole de Dieu. Interfère pour l'œuvre de Dieu. Fais ce que Dieu a mis dans ton cœur de faire. Et le restant, c'est Dieu qui va s'en occuper. Alléluia. Ah, c'est dur. Je vous dis, l'église primitive a reçu la persécution. La persécution est en train d'arriver. Vous savez, le 30 septembre, il y a eu un coup d'État au Burkina Faso. Donc, c'est le dernier coup d'État. Bon, pour l'instant, et on croit que ça sera la dernière. Et quand il y a eu le coup d'État, il y a le président de porte ouverte, que vous connaissez très bien, le 1er octobre, qui a fait un message en italien pour dire de prier pour le Burkina Faso parce que l'Église est attaquée, on tue les chrétiens. Mais j'ai dit, c'est pas seulement l'Église qui est attaquée. C'est pas l'Église seulement. C'est pas seulement les chrétiens qui sont attaqués. C'est toute la population qui est attaquée. Toute la population. Donc, il n'y a pas que les chrétiens qui sont attaqués au Burkina Faso. Tout le monde est attaqué. Tout le monde est attaqué. On négocie tout le monde. Même des imams, des prêtres, on les tue. Les pasteurs, on les tue. Tout le monde. Parce que nous vivons tout simplement 2 Timothée chapitre 3. Et je vais faire la lecture de 2 Timothée chapitre 3. Pour terminer ce culte, pour que nous sachions à quel temps nous sommes. Nous sommes à quel temps nous sommes aujourd'hui. Donc, cela est très, très capital. Donc, 2 Timothée, chapitre 3, l'apôtre Paul dit à Timothée, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, avec de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leur parole, ingrat, irreligieux, insensible, l'insensibilité est là, dédaigneux, calomniateur, intempérant, cruel, seront cruels, avec égorgé quelqu'un, avec tué quelqu'un, quoi, même un poulet quand on le tue là, on a des sentiments, mais on doit le manger, lui il est décidé pour être mangé. Mais la Bible dit qu'ils auront craint, ennemis des gens de pied, traîtres, emportés, traîtres. Combien de personnes t'ont trahi, Michel? Combien de personnes? Mais voilà!
Combien de personnes m'ont trahi?
Ils sont beaucoup!
Oh, plus!
Voilà! Ils sont beaucoup! Mais pourquoi? Mais la Bible avait déjà prédit qu'à la fin des temps, il y aura ces gens-là. Donc, traître, apporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reliant ce qui a fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Dans les maisons, l'apôtre parle des chrétiens. Il ne parle pas des gens qui sont dehors. Il ne parle pas des gens qui sont à Cahors, ou à Toulouse, ou à Paris, qui ne connaissent pas Dieu. Non, Paul parle de ceux-là qui se disent qu'ils sont chrétiens, de ceux-là qui se revendiquent, étant évangéliques, étant pentecôtistes, mais pourtant ce sont des salopards. Oui, c'est des gens qui sont sans ça. Et Paul parle de ces gens-là. Il avait parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible, à borner, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours à ne pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. Alléluia! C'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Michel, ce n'est pas la parole de Samuel, ce n'est pas la parole de Marie-Claire,
C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Et voilà pourquoi Paul va continuer plus loin et il va dire à Timothée, sois un modèle.
Alléluia.
Il va dire à Timothée, sois un modèle. Sois un modèle pour tes frères. Sois un modèle pour l'Église. C'est ce que la Bible nous dit. Sois un modèle. Et aujourd'hui,
qu'est-ce qui se passe? Est-ce que réellement nous pouvons dire que je suis un modèle? Un modèle de chrétien?
Que personne
ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Si Jésus ne revient pas, nous nous verrons. Déjà, on a fixé le rendez-vous en décembre avec le révérend Michel Jantor pour le Burkina Faso. Et le diable aura encore un problème de plus. Alléluia. Donc, tout simplement, Dieu ne prend pas des gens parfaits. Donc, rappelle-toi très bien que Dieu ne prend pas des gens parfaits, mais des gens perfectibles que Dieu prend. Que Dieu te bénisse. Toi qui écoutes, que Dieu te bénisse. Et je sais que nous allons nous soumettre à Dieu. Et dès que tu te soumets à Dieu, le diable va fuir devant toi. Le combat spirituel, nous l'avons. Prenons la ceinture, prenons la cuirasse, prenons toutes les armes de Dieu pour résister au mauvais jour. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui suivent révélationbible.fr, que à travers ces enseignements que vous écoutez du pasteur Michel Jantor, continuez à prier pour lui, continuez à prier pour son église locale, continuez à prier pour le Burkina Faso et priez pour les hommes de Dieu et priez pour l'église en général. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Amen.
Alléluia.